In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Je suis Julie Marceline Pujol et vous écoutez Nude, le podcast qui met le monde à nu à travers des histoires vraies, intimes et extraordinaires. Gilles de la Tourette est trouble obsessionnel compulsif ou TOC, les mots de sa maladie, Michael n'a quasiment jamais réussi à les prononcer. Tout comme les médecins ont mis plus de 10 ans à poser le diagnostic, lui n'arrive toujours pas à dire qu'il souffre de ces troubles, encore tabous car incompris. Pendant longtemps, il n'a pu parler à personne. Pour Nude, il a accepté de raconter. Il m'a expliqué que ce témoignage était une étape importante de son long parcours d'acceptation. Attention, cet épisode aborde plusieurs sujets difficiles. Vous allez l'entendre, c'est l'histoire d'une descente aux enfers. Mais au bout du chemin, il y a la renaissance.
J'ai commencé à avoir des premiers tics à l'école maternelle. C'est passé assez inaperçu finalement à l'époque parce que c'est assez fréquent chez les enfants d'avoir ce genre de choses. Je clignais beaucoup des yeux et je plissais les yeux pas mal. Il y avait des mouvements aussi au niveau du nez, je contorsionnais un peu le nez et je me raclais aussi pas mal la gorge, mais de manière très répétée. La première fois qu'on m'en a vraiment parlé, c'est quand j'étais au CE1. Mon enseignant de CE1 avait remarqué que j'avais des symptômes en fait, qui pouvaient ne plus passer inaperçu à ce moment-là. Et c'est là qu'il a convoqué mes parents pour en parler. Lui, son inquiétude, c'était que ça perturbe en fait les autres élèves de la classe. Donc c'était pas vraiment pour m'aider en fait. C'était plus parce qu'il se préoccupait en fait de l'ambiance de sa classe. Un prof nous convoquait à l'école avec mes parents, alors que j'étais un bon élève, il n'y avait aucune raison qu'on me convoque particulièrement. Qu'on me convoque pour parler de mon comportement, alors que j'étais un bon élève, calme, sérieux.
L'instituteur rencontre donc les parents de Michael, à qui il suggère de consulter un médecin. Ils prennent alors rendez-vous chez leur pédiatre.
Qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, il se passe rien. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'est vraiment pas une maladie dont on parlait, c'était pas très médiatisé. La réponse, c'est ce sont des tics de l'enfance, c'est hyper fréquent, c'est le stress de l'école, c'est le stress des changements, etc. C'est normal, ça va passer, vous inquiétez pas. Encore plus il y a 30 ans que maintenant, le médecin a vraiment un poids. Il a une autorité, quand il dit quelque chose, le médecin l'a dit, c'est comme ça. Donc si le médecin dit que c'est normal et que ça va passer, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on ne s'inquiète pas, ça va passer. Si à ce moment-là, le médecin avait dit, ok, on va essayer de voir, on va essayer d'approfondir un peu, voir ce qu'on peut faire, ça se serait passé différemment, mais en l'occurrence, il a d'emblée en fait, mis un stop. Ça a été en fait, le premier pas de l'escalier vers l'enfer, en fait. Mes tics se manifestaient de manière de plus en plus intense, finalement, avec le temps. Ça s'atténuait pas du tout comme le médecin l'avait prédit. Les tics, c'est handicapant parce que souvent, ça se voit. Donc, les autres voient que t'as quelque chose et puis ils comprennent pas. Et puis toi, à cet âge-là, tu comprends pas non plus vraiment, donc tu peux pas leur expliquer. C'est... oui, t'es pas la bête de foire, mais on me faisait déjà comprendre, les autres élèves, que j'étais pas comme eux. Et ces âges-là, en général, on n'aime pas trop les gens qui sont différents, parce que justement, on n'est pas sensibilisé à la différence. Dès la maternelle, je me faisais jeter dans le bac à sable, je me faisais insulter. J'étais toujours celui qu'on n'a pas envie d'avoir dans l'équipe de sport, celui qu'on n'a pas envie d'avoir à la fête d'anniversaire, celui avec qui on ne veut pas faire un exposé. J'étais pas invité aux fêtes d'anniversaire.
T'en parlais à tes parents ?
J'en parlais pas vraiment à mes parents, parce que déjà, mes parents, eux, étaient dans la situation de ne pas savoir ce qui se passait. Le médecin disait qu'il n'y avait rien, et j'osais pas trop en parler, parce que justement, si j'en parlais, c'était pour en parler au médecin, et le médecin disait qu'il n'y avait rien. Eux, ça leur paraissait aussi pas normal de pas avoir d'amis à cet âge-là. Et donc, du coup, c'était aussi un reproche qui m'était fait, c'était « t'as pas d'amis, il faut que tu sortes, il faut que tu déconnectes un peu de tes bouquins, il faut que tu sortes un peu de tout ça, que t'ailles jouer au foot avec tes copains, etc. » Sauf que Tu fais comment pour aller voir des amis si t'en as pas?
Au fil des années, les tics de Michael s'accentuent et s'étendent notamment au ventre, ce qui lui provoque des douleurs abdominales. C'est ce qui pousse ses parents à consulter à nouveau, mais la réponse est toujours la même.
Toujours cette embûche-là en fait, du médecin généraliste qui ne comprend pas, qui ne sait pas quoi faire, donc il n'y a rien, c'est dans la tête. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'il nous a envoyé vers l'hôpital de Nancy, en service de pédiatrie, pour faire des évaluations plus approfondies. Donc il a quand même eu ce réflexe-là. Et donc on a fait ces journées d'évaluation à l'hôpital, dont il est ressorti, rien. C'est dans la tête, c'est du stress, c'est de l'anxiété, ça va passer. Ben on sort de là, et puis mes parents recommencent à se dire, ouais, c'est dans la tête, ça va passer en fait. Là on est dans un hôpital spécialisé, service de pédiatrie, hôpital universitaire, les médecins disent qu'il n'y a rien. Donc en plus, là ça va encore plus, pas vraiment dans le reproche, mais dans la culpabilisation un peu, c'est un peu, tu fais du spectacle en fait, c'est un caprice que tu nous fais, je sens qu'il y a, que là, à ce stade-là, il n'y a pas d'issue à part attendre en fait que ça passe, si ça passe.
À l'entrée au collège, les symptômes s'aggravent et touchent désormais de nombreuses parties de son corps, provoquant des mouvements incontrôlables.
On veut pas bouger son bras, mais il bouge quand même. Je parle souvent d'éternuement. En fait, c'est la même sensation. En fait, quand on a envie d'éternuer, il y a une sensation au fond de la gorge, et il y a que l'éternuement en fait qui peut la faire sortir. Et le tic, en fait, c'est comme ça que je le ressens. C'est il y a une sensation désagréable qui se met à un endroit, comme si on avait envie d'éternuer, et en fait, on éternue avec ce membre-là, quoi. La même sensation. L'éternuement, on peut le retenir un peu, mais si on le retient, il sortira quand même à un moment. Et on aura beau faire ce qu'on veut, même si on se retient quelques secondes, ça finira par sortir.
Dans l'imaginaire collectif, le syndrome Gilles de la Tourette, c'est aussi et surtout des insultes. Mais ce symptôme est en fait assez rare, et les vocalisations, comme on les appelle, peuvent prendre différentes formes.
Moi, ça n'a jamais été des mots, ça a plus été des bruits un peu comme des cris de douleur, en fait, que je faisais pas mal le soir à la maison ou la nuit, donc ça gênait aussi les autres membres de la famille pour dormir. Ce qui me valait aussi des reproches aussi de mes parents qui comprenaient pas pourquoi je me mettais à crier de temps en temps la nuit.
La première fois qu'il se passe ça, qu'est-ce que tu te dis ?
Moi, je me dis rien, en fait. C'est ça qui est assez surprenant, c'est que c'est quelque chose qui sort naturellement, en fait. Les tics vocaux, les tics moteurs, c'est le même mécanisme derrière, en fait. Quand ça fait des années que t'as des tics au niveau moteur, et t'as un tic vocal qui se déclenche, en fait. Un tic vocal, c'est un tic moteur. C'est juste qu'il concerne les cordes vocales. Donc c'est en fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de contracter le biceps, tu vas contracter tes cordes vocales. Et ça va faire un bruit. Mes parents, qui étaient encore mariés à l'époque, commençaient à me reprocher que j'empêche les gens de dormir, que quand je suis à table, je commence à avoir des comportements un peu bizarres. Donc ça commençait vraiment à se voir pas mal. Ce qui faisait que quand on avait des repas de famille ou avec des amis de mes parents qui venaient à la maison, c'était pas top pour l'image de la famille d'avoir quelqu'un à table qui se dandine dans tous les sens sans raison. En fait, il n'y avait pas de solution. En fait, ils ne savaient pas ce qui se passait. Personne ne leur disait ce qui se passait. Personne ne leur disait ce qu'il était possible de faire. Donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu mal faire, en fait. C'est juste qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'arrive pas à me retenir, en fait. C'est vraiment ça, parce que c'est ce dont je me souviens, en fait, de toute mon enfance. C'est mon père qui me dit « arrête, 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 arrête ». Et c'est vraiment le souvenir que j'ai, c'est « arrête, arrête ». Mais en fait, fous-moi la paix, en fait. J'y peux rien. Je peux rien contre ça. Donc je veux bien qu'ils me disent « arrête », mais je peux pas. C'est là que tu le vis, en fait, vraiment assez mal. C'est que tu te dis, en fait, je vis avec des gens qui ne me comprennent pas. Ça devenait vraiment assez problématique. Je me suis harcelé dès le bus, en fait, pour aller au collège. On me serrait dans un coin du bus pour me tabasser. On me volait des trucs au collège. Je me faisais racketter. Je sentais que ça dérapait quand même pas mal. Et à peu près à la même époque, j'ai commencé à avoir des tocs. Faut bien faire la distinction entre les tics et les tocs. Les tocs, c'est plus au niveau des pensées. Ça va être des obsessions en fait de pensées qui vont entraîner des comportements pour chasser ces obsessions. Alors moi, les premiers tocs que j'ai eus, c'est des tocs au niveau de la symétrie du rangement. Donc, ma chambre était toujours très très bien rangée. Pas parce que j'étais un enfant modèle, juste parce que j'avais des TOC en fait. Et j'avais d'autres TOC aussi qu'on appelle l'arithmomanie. Donc, c'est l'obsession en fait des calculs. Donc, c'était dans ma tête en fait, dès que je voyais quelque chose, je comptais et puis je multipliais par autre chose. En fait, je faisais des calculs en permanence dans ma tête de tout. J'avais des chiffres qui me venaient. C'était vraiment. C'est inexplicable en fait. Et donc du coup, au même moment, ce qui arrive avec les TOC, c'est les pensées magiques. C'est si je réponds pas à mon obsession, il va arriver un malheur en fait. Typiquement, quand je marchais sur du carrelage, il fallait que je marche jamais sur les joints, que je sois toujours en plein milieu du carreau et un carreau sur deux. Et donc si j'avais le malheur de marcher sur un joint, il allait se passer un malheur. On sait en fait, on est conscient en fait que c'est absurde, qu'il se passera pas de malheur si on marche sur le joint. Mais on se sent obligé de le faire en fait. Si on marche sur le joint, il va arriver malheur, ma mère va tomber malade ou je sais pas quoi. Ça s'appliquait pas que sur le carrelage, c'était aussi au niveau des trottoirs. Il fallait pas que je marche sur les fissures qu'il y a sur les trottoirs, qu'il fallait pas que je marche non plus sur le rebord du trottoir, sur les passages piétons, il fallait que je marche sur les lignes. Bon, c'était vraiment hyper envahissant en fait. C'était dans toutes les situations. Les TOC se manifestaient aussi dans la classe, sur mes copies. Du coup, j'alignais toujours tout. Il n'y avait jamais rien qui dépassait d'un côté de la marge ou de l'autre. Sinon, je recommençais tout. Donc, ça s'appliquait aussi finalement là, parce que une feuille à carreaux, il y a des carreaux dessus. Quand on saute une ligne, on en saute deux, parce que si on saute une, c'est pas assez. Si on saute trois, c'est trop. Et le soir, c'est censé être un peu le moment de répit. Et finalement, non, en fait, tu rentres le soir, tu fais tes devoirs, en mode compulsif d'obsession, de mise en page et autres. Tu vas dans ta chambre et en fait, là, tu te mets à ranger, tu te mets à aligner les choses, tu te mets à compter le nombre de carreaux au plafond, à multiplier les nombres entre eux. Tu n'arrives pas à t'endormir parce que tu es en train de compter le nombre de points sur la tapisserie. C'est pas un jeu, en fait, c'est une souffrance, c'est quelque chose qui s'impose en fait et qui devient envahissante. On se sent vraiment prisonnier du truc. En fait, ça te laisse pas de répit, donc c'est vraiment une souffrance qui est indescriptible parce que c'est pas une souffrance physique, c'est pas une souffrance morale, c'est plus un sentiment d'emprise en fait, d'être vraiment prisonnier d'un comportement que t'arrives pas à maîtriser. Tu peux pas partager cette souffrance parce que les gens comprennent pas en fait. Les gens comprennent pas si tu leur dis j'arrive pas à dormir si je suis pas exactement au milieu de mon lit et que mes coussins sont disposés de manière exactement symétrique autour de moi. Tu te dis, mais t'es cinglé en fait, arrête ton cirque et dors. Faire quelque chose d'absurde qui n'a aucun sens. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est incompréhensible pour les gens qui ne le vivent pas parce qu'ils se disent, moi, si je trouve que quelque chose est bête, je vais pas le faire en fait, c'est tout. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a pas ce mécanisme qui se déclenche en fait chez les personnes qui ont des TOC. Et ça peut prendre des heures dans une journée. J'ai commencé à avoir aussi un autre TOC qui s'est développé un peu après, qui est la répétition, en fait, un TOC de répétition. C'est que je répète les phrases à l'envers dans ma tête, donc ça peut être des phrases que je dis, des phrases que j'entends. En fait, je vais les répéter à l'endroit, puis à l'envers, puis à l'endroit, puis à l'envers, pendant un certain nombre de fois, et typiquement toujours un nombre impair, parce que toujours un TOC de calcul de nombre, je déteste les nombres pairs, sauf 2, parce que le 2 est un nombre premier. Faut vraiment comprendre le truc, hein. Mais quand tu es en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, et que d'un coup, tu as une phrase qui te vient, qui s'imprime dans ta tête, et il faut que tu la répètes, 7 fois, 11 fois, 13 fois, à l'endroit, puis à l'envers, tu te retrouves juste à hocher de la tête et dire oui. Parce que tu es perdu dans tes pensées à répéter en fait un truc qui a aucun sens, qui a aucune importance. Parfois, je répète en comptant le nombre de syllabes. Et du coup, je cligne des yeux, en fait, alternativement, si c'est un nombre pair ou impair. J'arrive pas, en fait, à ne pas le faire. Je suis obligé de le faire. Le mot que j'associe souvent au tic et au toc, c'est l'état de siège, en fait. On habite son propre corps, mais on n'est pas maître, en fait, de ce qu'on y fait. Tout un chacun qui a pas une pathologie. S'il décide de bouger le bras, il bouge le bras. Et puis s'il veut rester immobile, il reste immobile. Et moi, de me dire que s'il veut rester immobile, je vais bouger 50 fois par minute, c'est une torture de se dire j'arrive pas à contrôler mon corps. J'arrive pas à contrôler mon corps, j'arrive pas à contrôler mes pensées. Des fois, je suis tellement fatigué et de me dire j'ai juste envie de me coucher et de dormir et de se retrouver couché dans son lit à compter le nombre de livres, à se répéter des phrases qu'on a entendues dans la journée. Parce que ça aussi, c'est pas des phrases qu'on entend forcément immédiatement, c'est des phrases que je peux avoir entendues genre le matin. Je vais me rappeler cette phrase et je vais la répéter sans cesse dans ma tête, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Il y a vraiment pas de bouton stop et c'est vraiment... c'est du continu, en fait. Il n'y a pas de bouton stop, c'est vraiment... Le seul moyen d'arrêter, en fait, c'est de réussir à s'endormir.
C'est au fil de notre discussion que je mesure à quel point ces troubles qui le font tant souffrir, Mickaël les a vécus dans le silence et la solitude la plus totale.
Par rapport au TOC, à quel moment tes proches s'en aperçoivent de ça?
C'est une bonne question, j'ai l'impression qu'ils s'en sont jamais aperçus. Je saurais même pas répondre. Parce que là, je me suis jamais posé la question, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé de ça.
Encore maintenant, tes proches ne savent pas que tu vis ça en fait.
Ouais, c'est vraiment la face cachée du truc que personne, ouais, que personne, dont personne ne se rend compte finalement.
Alors qu'il est toujours au collège et assailli de plus en plus de tics et de tocs, Michael fait alors une rencontre qui pourrait tout changer.
À 500 mètres de chez moi, il y avait une fille qui habitait avec ses parents, qui était bien plus âgée que moi, qui avait un peu le double de mon âge, d'avoir 25 ans à l'époque, et qui, elle, avait un syndrome de la Tourette. Et donc, elle le savait, elle était diagnostiquée, elle avait des tics, qui, elle, étaient essentiellement vocaux, elle avait des mots, etc. Et donc, souvent, on papotait le soir, l'été, dans la rue, on jouait au badminton, enfin voilà, on un truc de quartier. Et elle nous en avait parlé, et je me suis dit, bah, en fait, ça ressemble quand même pas mal à ce que j'ai. Ce genre de comportement que t'arrives pas à contrôler, elle avait aussi pas mal de TOC, en fait il y avait pas mal de choses en commun, et je me suis dit bah, c'est peut-être ça que j'ai en fait finalement. Alors ça a provoqué un déclic en moi de me dire bah, finalement ce que j'ai, il y a d'autres personnes qui l'ont aussi visiblement, et puis elle est suivie par un médecin, donc bah, moi aussi je devrais pouvoir être suivi par un médecin. C'était ouais, le début des années 2000, il y avait Internet qui se développait. Et donc j'ai regardé en fait sur Internet si je trouvais des choses. Et je suis tombé sur une page qui parlait du syndrome de la Tourette et qui listait en fait les symptômes qui étaient possibles. Et en fait, je me suis dit, c'est moi. C'est moi, c'est ce que j'ai. Je découvre que je suis pas le seul à avoir ces symptômes-là que j'avais depuis quasiment 10 ans et dont tout le monde se foutait finalement, dans tous les sens du terme. Et en fait, c'est du soulagement, c'est de me dire, oui, je suis malade. Tout le monde me dit que j'ai rien, que c'est dans ma tête, que ça va passer, que c'est des caprices. En fait, non, c'est une maladie. Alors, j'avais déjà entendu le nom de la maladie, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on commençait un peu à en parler, parce qu'il y avait un peu toute la télépoubelle qui se développait, en fait, et qui est en recherche de sensationnalisme, de gens avec des comportements qui sortent de l'ordinaire, qui sont un peu spectaculaires. Donc j'avais déjà entendu le nom de la maladie bah, par justement ce genre de reportage qui interroge des patients extrêmes qui ont des tocs et des tics énormes, qui vont casser les murs, qui vont insulter tout le monde, qui sont des cas rarissimes en fait. Et donc moi forcément, cette maladie, je l'associe à ça. Donc d'emblée, j'avais un a priori négatif sur la chose de me dire bah, je vais devenir comme ça. Je vais devenir comme les gens à la télé, je vais me mettre à insulter tout le monde, je vais me mettre à taper contre les murs, je vais me mettre à me taper la tête contre le sol. Du coup, ça fait un choc à cause de ces a priori-là, mais au-delà desquels j'ai pu aller en me disant, à partir du moment où je sais ce que j'ai, c'est aussi peut-être la porte ouverte à une prise en charge. Quand je serai grand, peut-être qu'il y aura une solution. Et là, du coup, c'est là que j'en ai reparlé à mes parents. En disant, bah écoute, j'ai l'impression que ce que la voisine a, c'est un peu la même chose que moi. J'ai regardé sur Internet, je suis tombé sur une page. Je pense que c'est ça que j'ai. Puis rien. Pas de réaction. C'est ouais, ok, t'as vu ça sur Internet. Okay. Bah, le médecin, il dit que t'as rien, donc on verra plus tard. Alors, le lycée se passe extrêmement mal sur le plan de la santé, mes tics s'aggravent énormément. Il y a un événement déclencheur quand je suis en seconde. En fait, ma mère a un accident. Elle s'est fracturée la colonne vertébrale. Ça m'a fait comme un gros choc de l'avoir bah, travaillé toujours, etc. Et du jour au lendemain, être alité et de plus pouvoir travailler. Et à partir de ce moment-là, mes tics commencé à être vraiment beaucoup plus violents, beaucoup plus intenses. Donc ça a commencé à poser vraiment problème au niveau bah, de la classe. Parce que bah, forcément, quand il y a quelqu'un qui s'agite dans tous les sens, bah, ça se voit et ça peut perturber, je l'entends. Ça a été assez infernal à vivre. puisqu'à ça s'ajoutaient des douleurs en fait qui sont des douleurs qui sont comme on va dire un sportif qui fait un faux mouvement en fait. C'est vraiment ça, c'est des articulations qui se déboîtent, c'est de la peau qui frotte et qui fait des plaies, on peut se frapper aussi, hein. Parfois un mouvement qui part dans le mauvais sens, au lieu de taper contre le mur, on va taper contre sa tête. Donc vraiment, il y a plusieurs sources de douleurs qui sont possibles, et c'est ça qui est vraiment omniprésent dans cette maladie, c'est que certes ça se voit, mais ça se sent aussi à l'intérieur. Et donc du coup, j'ai commencé à pas forcément à chercher des stratégies, mais j'en ai découvert plus ou moins par sérendipité finalement, qui était comme le tic devait se terminer par une douleur, plutôt que d'avoir le tic puis la douleur, je me provoquais la douleur pour éviter que le tic ne se déroule. Et donc ce que je faisais, c'est que je prenais mon doigt avec mon ongle et j'enfonçais mon ongle très profondément pour provoquer la douleur au même endroit que le tic provoquait la douleur, pour faire comme si la conséquence du tic avait été là. Sans le tic. J'arrivais à maîtriser certains tics comme ça, mais sauf que du coup, au lieu d'avoir la douleur articulaire et puis le mouvement visible, on a juste des cicatrices en fait sur la peau. On saigne, quand on a un t-shirt blanc, à la fin de la journée, il est taché de rouge parce qu'il y a du sang dessus. Finalement, c'est des stratégies qui peuvent marcher pendant quelques minutes, mais qui avancent pas grand-chose.
Sans prise en charge, Michael se débrouille tout seul. Et les choses vont encore se compliquer. Car le syndrome Gilles de la Tourette est très fréquemment associé à d'autres troubles. Les TOC, vous l'avez entendu, et dans le cas de Michael, il y a aussi eu une grosse dépression et des troubles alimentaires.
Je me pesais en fait, dès que j'avais l'occasion de le faire, dès que je choisissais une balance, je me pesais, même la nuit je me levais pour me peser. Je me pesais avant de mettre mes lentilles, je me pesais après avoir enlevé mes lentilles, comme si ça allait changer quelque chose. Parfois je me levais la nuit, je me réveillais la nuit pour aller me peser. Donc vraiment c'est un peu ce comportement toujours obsessionnel en fait du chiffre, avec des compulsions qui sont, si t'es au-dessus d'un certain chiffre, il faut que tu manges moins pour être en dessous demain. C'est vraiment, en fait, pour moi, la mécanique est la même que dans le TOC, en fait. Moi, j'assimile mon trouble du comportement alimentaire à vraiment une forme de TOC. Je faisais un énorme petit déjeuner le matin, que je prenais en plus en cachette. En fait, je me levais hyper tôt le matin, alors qu'il n'y avait aucun besoin de me lever aussitôt, juste pour qu'il n'y ait personne d'autre dans la cuisine, où je m'enfilais, en fait, des quantités astronomiques de céréales, de tout ce qui me passait, en fait, sous la main. Puis, je mangeais pas à midi. Normalement, je devais aller à la cantine au lycée, sauf que j'y allais pas. J'allais marcher en fait dans la ville au lieu d'aller manger. Et le soir, en fait, ce que je faisais, c'est que du jour au lendemain, j'ai commencé à refuser de m'alimenter de la même manière que ma famille. Je mangeais à la table avec eux, mais je me faisais mes propres repas. En gros, c'était ça. C'était le soir, en fait, comme je me restreignais pas mal sur ce que je mangeais, comme je mangeais plus comme ma famille, le matin en fait, je crevais la dalle en fait littéralement. Donc du coup, je faisais une crise de boulimie qui compensait en fait ce que j'avais pas mangé la veille. Et comme je mangeais des quantités astronomiques en fait, je sautais le repas du midi, vraiment comme compensation boulimique.
Là encore, il t'arrive quelque chose qui concerne pas beaucoup de monde parce que l'anorexie chez les hommes, c'est pas fréquent et on n'en parle pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
À ce moment-là, je me dis rien parce que j'ai pas conscience en fait de ce qui m'arrive. J'en ai conscience que beaucoup d'années plus tard, j'avais aucune conscience du fait que c'était pathologique, que c'était de l'anorexie. Vraiment, c'était mon comportement alimentaire, c'était comme ça. Et puis comme personne ne me disait rien, du coup, ça posait pas de problème, personne n'a abordé le sujet. Donc ouais, c'est vrai que c'est passé totalement sous le radar.
Au lycée, Michael se fait des amis et enfin, on ne le juge pas. Il a des troubles, tout le monde le voit, mais ce n'est pas un sujet. D'un côté, c'est un soulagement, mais en même temps, il reste ce non-dit.
D'un côté, je me suis senti accepté par les autres tel que j'étais, mais de l'autre côté aussi, en les fréquentant, je me rendais aussi compte que j'étais pas comme eux. Donc certes, j'étais accepté parmi eux, mais j'étais toujours un peu. C'est pas eux qui me plaçaient en dehors, hein, c'est moi qui me plaçais en dehors. Et si tu penses ce qu'on appelle l'autostigmatisation, c'est le fait de se juger soi-même négativement par rapport à sa maladie. On fantasme en fait ce que l'autre pense de soi. Et donc, certes, d'un côté, c'est agréable d'avoir pu avoir des amis à ce moment-là, mais ça aussi était un peu une source d'angoisse aussi pas mal de se dire qu'est-ce qu'ils doivent. Certes, on n'en parle pas, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi en fait? Et la différence aussi, c'est que avant, je savais ce que les autres pensaient de moi. Parce qu'ils enfin, ils le manifestaient, leur négativité, leur regard critique et leur jugement sur mes symptômes, je savais en fait. En fait, je savais à quoi m'en tenir, je savais que les gens me jugeaient négativement, puis voilà. Et là, du coup, je tombais dans le flou, c'est que les gens n'en parlaient pas, ils ne me jugeaient pas pour ça. Et donc, du coup, on se retrouve dans le flou, c'est que maintenant, plus personne ne me pointe du doigt, on me parle, mais ils doivent quand même en penser quelque chose. Mais quoi? En plus, quand on a vraiment une tendance à avoir des tocs et de l'anxiété, ça peut aussi vite tourner en boucle. Et ça peut être un frein aussi de se dire bah, pourquoi en fait, bah, pourquoi ils traînent avec moi? Jusqu'à présent, on m'a toujours exclu de tout. Pourquoi là, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai des amis?
Le lycée se termine, Michael obtient son bac, il quitte l'Est de la France pour commencer des études de médecine à Paris. En parallèle, il trouve un job étudiant dans la restauration. Mais très vite, ses symptômes deviennent de plus en plus violents. Il voit un médecin qui le met en arrêt de travail.
C'est vraiment la première fois qu'on m'écoute en fait sur mes symptômes, et je pense que c'est typiquement parce que bah, pour une fois il y avait une vraie conséquence, c'était que j'avais un travail et je pouvais plus y aller. Alors qu'avant, bah, ok, il y avait des conséquences, c'était que bah, je bougeais en classe, les gens me regardaient, me pointaient du doigt, mais il n'y avait pas de conséquences vraiment quotidien en fait, c'était pas quelque chose de handicapant au sens strict du terme. Là ça le devenait, puisque comme je pouvais plus travailler, c'était un handicap. Donc du coup, ce médecin-là s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Je lui ai dit que, enfin, je lui ai raconté un peu l'histoire des symptômes. Je lui ai dit que bah, depuis le début des années 2000, je pense que c'est cette maladie-là, mais qu'on m'a toujours dit que non. Et pour lui, ça lui paraissait quand même relativement évident que c'était ça.
Suite à cette consultation, Michael a rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Là se trouve le centre de référence Gilles de la Tourette. Il s'y rend avec sa maman qui a fait le déplacement.
C'est vraiment le premier moment où on prête attention finalement à mes symptômes et où les gens ont l'air de se dire, ben oui, on sait ce que c'est en fait, on en voit tous les jours des gens comme vous. Donc, il n'y a pas de souci, on va vous prendre en charge. Ensuite, je reçois le compte-rendu à la maison, je crois que c'était une semaine plus tard, qui met formellement dessus syndrome de Gilles de la Tourette. À ce moment-là, j'ai énormément d'espoir. Dans une prise en charge, mais grosse déception, c'est que bah, il n'y a pas de traitement qui existe. C'est là que bah, je découvre en fait que bah, les traitements qui sont proposés, c'est des traitements qui sont pas spécifiques, qui sont un peu testés au pif comme ça, parce qu'on sait que chez certaines personnes ça marche un peu, et c'est typiquement ce qui existe encore aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de traitement spécifique parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc on peut pas vraiment traiter la cause quand on la connaît pas.
Les médecins lui prescrivent un traitement utilisé à l'origine pour la schizophrénie. Mais Michael fait une réaction très violente aux médicaments. Comme il n'a pas été très bien informé par son médecin, il n'a aucune idée de ce qui lui arrive.
Tellement que j'étais mal en fait à l'intérieur de moi, je me sentais brûlé de l'intérieur en fait, il n'y avait plus rien qui allait, j'étais vraiment pas bien. Vraiment, je me sentais en fait vraiment bouillir en fait de l'intérieur. En plus, c'était à la fin de l'été, il faisait hyper chaud, j'avais de la fièvre, je bougeais dans tous les sens, je savais pas quoi faire. J'ai rappelé ma mère qui du coup était rentrée en lui disant ça va vraiment pas, faut faire quelque chose, sinon je vais faire une bêtise en fait. Parce que je savais pas que ça pouvait être lié au traitement, je pensais que c'était ma maladie en fait. Et donc du coup, bah, je me retrouve à appeler ma mère en me disant faut que tu viennes parce que bah, soit tu viens, soit tu pourras plus jamais me voir en fait. En gros, c'était ça. Et donc elle est venue en urgence aussi. On a passé quelques jours ensemble, on est allé aux urgences ensemble à l'hôpital. Du coup, on m'a retiré le traitement. Et là, gros coup de massue, c'est ma mère qui me reproche en fait d'être malade. Elle me reproche en fait de l'avoir appelée malade alors qu'elle est malade, de lui ajouter en fait un fardeau. Je cumulais en fait tellement de choses depuis quelques mois. En fait, j'arrivais plus à me comporter normalement, même au quotidien. En fait, ma vie était déréglée. Je vivais la nuit, je marchais toute la nuit. Je buvais beaucoup d'alcool aussi quand je sortais en soirée. Ça devenait vraiment n'importe quoi. C'était vraiment une destruction à petit feu en fait de ce corps en fait qui me faisait souffrir depuis aussi longtemps. Ben, un mois plus tard, j'ai fait une tentative de suicide parce que typiquement, je me disais, ok, maintenant je sais ce que j'ai. Le traitement marche pas qu'on m'a proposé. Ma famille maintenant commence en plus à entre guillemets, pas à me rejeter, mais à me reprocher d'être malade, alors que ça faisait 13 ans qu'ils me disaient qu'il n'y avait rien. Et je me suis dit, bon, en fait, à quoi bon finalement C'était quelque chose qui n'était même pas prémédité, en fait. J'avais un autre job étudiant, du coup, à ce moment-là, j'étais dans un cabinet d'avocat. En fait, le soir, je faisais le secrétariat. Et donc, du coup, un soir, je devais aller travailler. J'ai ouvert mon tiroir à médicaments et j'ai pris tout ce qu'il y avait dedans.
Michael s'en sort et commence à voir un psychiatre pour les TOC et la dépression. Pour les TIC, il est suivi par un neurologue et il va essayer encore d'autres traitements, mais sans succès. C'est finalement au plus profond de lui-même qu'il va trouver les ressources et la clé pour mieux vivre sa maladie. Après les premières années en fac de médecine, il décide finalement de se diriger vers la recherche. Il veut faire de la neuropsychologie et travailler sur le cerveau. Pour son doctorat, il décide de se consacrer à la recherche sur Gilles de la Tourette.
La situation dans laquelle je me suis trouvé pendant des années, à savoir une situation de flou total, d'incompréhension de la famille, du corps médical, de l'entourage, d'absence de proposition de solution, pas savoir ce que j'avais, de pas savoir si je simulais peut-être par hasard ou je sais pas quoi. Je me suis dit, en fait, cette situation-là, faut pas qu'elle se reproduise. En fait, ça provoque tellement de souffrance, en fait, à la personne, à son entourage. J'ai pas envie, en fait, que d'autres personnes vivent ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être ma voie à moi, en fait, d'être peut-être quelqu'un qui contribuera à ce que d'autres n'aillent pas aussi mal que moi, en leur permettant justement de développer la connaissance scientifique sur cette maladie. Et ça me permet de rencontrer aussi des personnes qui ont finalement le même parcours que moi, qui ont connu l'errance médicale, l'errance diagnostique, l'errance thérapeutique, qui ont connu d'être pointé du doigt en permanence, d'être moqué, d'être harcelé. Et c'est là que je me dis, mais en fait, ce que je vis, y a plein d'autres gens qui le vivent. Ben ouais, en fait, mon cas, il n'est pas unique. Je suis pas un imposteur, je suis pas quelqu'un qui a inventé quelque chose pendant des années pour qu'on fasse attention à moi, non.
Michael a trouvé sa voix, mais pas encore les mots pour parler de sa maladie.
En fait, j'en parle de manière détournée en disant j'ai une maladie neurologique, une maladie du mouvement. Mais c'est vrai qu'en fait, pour le coup, je m'auto-stigmatise encore énormément. C'est-à-dire, en fait, si je dis que j'ai cette maladie, en fait, les gens vont avoir directement l'image de quelqu'un qui crie salope, 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 en fait. C'est vraiment l'image qu'on a tout de suite parce que c'est ce qui passe sur Energy 12 ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment, j'ai énormément de mal, en fait, à dire ce mot. C'est assez problématique. Même mon copain avec qui je suis depuis quasiment 5 ans maintenant, quand on en parle, j'ai beaucoup de mal à dire le mot, en fait. Je dis toujours, j'ai une maladie neurologique, ça ressemble à ça, mais... Et du coup, là, quand je lui ai dit que j'allais faire ce podcast, il m'a dit « Ah, c'est pour parler de l'anorexie ?» J'ai dit « Non, c'est pas pour parler de l'anorexie, c'est pour parler d'autre chose. » Il m'a dit « Ah, de Gilles de la Tourette. » J'ai dit En fait, j'ai rien dit, j'ai coupé court. Parce que, en fait, j'arrive pas à dire que j'ai cette maladie. Je le sais, ça fait 20 ans maintenant que je sais que c'est cette maladie-là. Ça fait plus de 10 ans que je suis diagnostiqué. J'arrive pas à dire que j'ai cette maladie. Ça me pose de plus en plus de problèmes, en fait, parce que je me rends compte que je me censure énormément quand je parle de moi. Déjà, c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à faire, de parler de moi, parce que c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pas été habitué, justement, parce que quand j'étais petit, on me disait tais-toi, arrête, en fait. Donc, en fait, c'est le truc, en fait, qui me suit depuis maintenant presque 30 ans. C'est le principal truc, en fait, que j'ai vécu dans ma vie, que je vis encore aujourd'hui, depuis toujours, qui occupe quasiment chaque seconde de mes journées, en fait, depuis quasiment 30 ans, et dont j'arrive pas à parler.
Donc là, tu le dis pour la première fois?
Pour ceux qui l'écouteront et qui me connaissent, c'est la première fois, en tout cas, qu'ils l'entendront. Je pense que ça pourrait être un soulagement, parce que, du point de vue de ma famille, il y a quand même énormément de non-dits par rapport à ça. Je pense que ça peut être salutaire aussi pour eux, voilà, qu'ils se rendent compte que ce que je vivais, c'était vrai. Et d'un point de vue peut-être plus global, au niveau de mes relations amicales ou professionnelles, c'est des choses dont ils ont pu se rendre compte, mais dont on n'a jamais vraiment parlé, donc ça peut peut-être aussi les éclairer. Et à mon avis, la réaction que j'aurais des gens qui me connaissent, c'est en fait, pourquoi tu ne l'as jamais dit? Parce que tout le monde trouvera ça absurde que je ne le dise pas. Et je pense que c'est surtout ça que ça va avoir comme conséquence, c'est que les gens vont me dire, mais pourquoi tu te caches, en fait? Pourquoi tu te caches?
Michael Mickaël ne se cache plus. Car il faut que je vous dise quelque chose. Ce témoignage a été enregistré il y a pas mal de temps. Oui, je vous l'ai dit, j'ai pris du retard. Du coup, j'ai repris contact avec Mickaël avant de sortir son épisode et il m'a confié que depuis notre discussion, il a réussi à reparler plusieurs fois de sa maladie et à la nommer. Il est aujourd'hui très épanoui et je trouve que ça envoie un message d'espoir.
Moi, aujourd'hui, je considère que je vais mieux. J'ai toujours des tics, j'ai toujours des tocs, mais j'ai pas de traitement parce qu'il n'y en a pas. Mais ça va mieux, je l'accepte en fait. J'ai un métier qui me plaît, j'ai un copain qui se passe très bien, j'ai des amis, j'ai un petit chien aussi maintenant. Enfin voilà, c'est pour le coup, si on me demandait comment ça se passe aujourd'hui dans ma vie, je dirais que ça se passe bien et que je vais bien.
Comment tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans?
La plus importante des choses que je peux dire aujourd'hui, c'est que je me vois vivant. C'était pas le cas là, il y a quelques années. Il y a quelques années, je me voyais pas passer la semaine en fait. Je me disais, là, ce week-end, je fais tout ce qu'il y a sur ma checklist de suicide, et puis la semaine prochaine, c'est fini, en fait. Et là, maintenant, c'est... Bah, dans 10 ans, j'ai envie de vivre, en fait.
Comme une belle revanche, Mickaël Worms Herminger est désormais enseignant en master, il donne des conférences et il est devenu un expert reconnu en santé mentale. Et vous le savez peut-être, dans Nude, j'aime les parcours qui laissent à penser que la boucle est bouclée. Eh bien sachez que Mickaël est l'auteur du podcast Les mots bleus, qui donne la parole à des personnes en rétablissement d'un trouble psy. Il a remporté le prix du meilleur podcast santé francophone. Merci Mickaël pour ta confiance et continue ta très belle route. Toutes les musiques de cet épisode ont été composées par Pascal Janssen, mon acolyte musical depuis plus de 10 ans. Je ne pensais pas pouvoir un jour l'intégrer à ce podcast, mais là aussi, la boucle est bouclée. Le générique, lui, est toujours signé Jean-Carl Lucas, et puis Mickaël Colas m'a donné un coup de main sur la qualité sonore de cet épisode. Il est temps de vous remercier de votre fidélité et de votre soutien. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, @nudepodcast, pour me faire vos retours sur cet épisode et sur les autres. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et autour de vous. C'était Nude, le podcast qui met le monde à nu à travers des histoires vraies, intimes et extraordinaires.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.